long des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Le témoin de ce vendredi, Jean-Louis Crémieux-Briac, français libre.
J'ai essayé de trouver la juste posture entre l'historien et le témoin. Il est certain que 50 ans après, la mémoire peut trahir et les sentiments que l'on a éprouvés, la vision trop personnelle, donc partielle des faits, peut amener à des conclusions partiales. La règle d'or, c'est évidemment de ne rien avancer qui ne soit pas attesté par des documents.
Le travail d'historien de Crémieux-Briac fait référence. Il y consacra sa troisième vie après sa retraite de haut fonctionnaire. Il avait été l'âme de la documentation française. Ces Français de l'an 40, en deux gros volumes, comme La France libre, même format, lui ont fait retrouver son expérience de jeune homme, mais sous un autre angle. Ce ne fut pas facile pour lui de rester fidèle à la fraternité ardente qu'avait été pour lui la France libre, tout en se pliant à la nouvelle discipline qu'il avait choisie en devenant historien. Mais un Français libre, c'est cela. Un homme habitué depuis Londres, non pas à arriver, mais à toujours repartir. Crémieux entretint ainsi sa longévité. À sa mort, il y a un an, à 98 ans, il avait encore en chantier deux livres, dont l'un, écrit aux deux tiers et publié aujourd'hui, en écho à l'étrange défaite du maître Marc Bloch, Gallimard lui a donné le titre de « L'étrange victoire ». C'est vrai que pour croire si vite à l'issue improbable de la libération, il a fallu que les Français libres aient une passion chevillée au corps. Ce sont les mêmes qui n'aiment pas, qui ne savent pas s'engager, disait Crémieux-Briac.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Les enregistrements que nous diffusons ici et qui ont donné à Crémieux l'idée de son livre posthume ont été faits avec Aurélie Luneau, l'historienne de Radio Londres. Ils datent de 2010. Crémieux, vous ne le croirez pas, a alors 93 ans. Il en avait 22 quand, à l'issue de quelques mois de dressage à Saint-Cyr, il est arrivé début 40 au 47e régiment d'infanterie, un régiment de série B qui stationne à Saint-Grégoire, près de Rennes.
Curieusement, je me suis trouvé avec des officiers qui encadraient ces unités, qui étaient des officiers âgés qui avaient fait la Première Guerre mondiale et qui se demandaient si la guerre aurait lieu. On était en pleine drôle de guerre, c'était en janvier 1940. Une partie de l'opinion publique se demandait donc si vraiment des hostilités auraient lieu, si cette guerre n'était pas une comédie. J'ai eu la grande surprise en arrivant sur place de me trouver accueilli par un lieutenant âgé qui faisait fonction de commandant de compagnie, qui me dit « Jeune homme, connaissez-vous les commandements de l'armée ? Ne fais pas toi-même jamais ce que tu peux faire par un autre, ne fais jamais le jour même ce que tu peux remettre au lendemain. » C'était une façon de voir de certains officiers âgés qui n'étaient plus en mesure de faire une seconde guerre mondiale ayant fait la première. Et d'autant que la Pologne pour laquelle on était entré en guerre n'existait plus et que peut-être un arrangement quelconque pourrait arriver. Ils ne savaient pas, on se questionnait, enfin ils faisaient leur métier. Et ce sont ces mêmes officiers que j'ai rencontrés en arrivant alors sur le front, en mai, un front de tranchées où il n'y avait guère que des échanges de coups de canon de temps à autre et des patrouilles, dans un régiment qui avait creusé ses tranchées et qui donc s'était installé dans la guerre de 1918, là aussi de 1918. Et cette même surprise que j'avais eue en arrivant à Saint-Grégoire, je l'ai eue le premier jour quand mon commandant de bataillon qui m'a invité à déjeuner m'a dit « Nous avons fait la première guerre debout. Celle-ci, nous la faisons à genoux. La prochaine, nous la ferons coucher. » Je l'ai regardé avec étonnement. Et comme j'ai fait une remarque sur, probablement un peu patriotique, mon lieutenant commandant la compagnie s'est exclamé « Il y croit, le petit !» J'ai pas oublié ce mot, parce que bon...
En mai 1940, le 47e est envoyé en renfort dans le prolongement de la ligne Maginot. Crémieux recevra la croix de guerre pour n'avoir pas abandonné son poste dans la débâcle, mais auparavant il aura été fait prisonnier.
Nous avons été encerclés et donc fait prisonnier, d'où a commencé une longue marche de quelques 200 km jusqu'à Beaurain en Belgique. train jusqu'en Poméranie, un camp qui s'appelait l'Oflag 2D, où sur le lendemain de notre arrivée, une épreuve vraiment douloureuse. Il y avait à l'entrée du camp des haut-parleurs qui, tous les jours à midi, donnaient les nouvelles allemandes. Et donc, le bloc où nous étions comprenait 2000 officiers. Et il y avait autour de ces midi, à peu près 150 officiers qui se groupaient autour de ces haut-parleurs. Et le 23, à midi, sonnerie de clairon, musique militaire, et un communiqué triomphant annonçant que l'armistice franco-allemand était conclu la veille à Retonde. Et j'entends les officiers autour de moi pousser un « Ah !» de soulagement et de contentement. Puis la radio annonce que cet armistice n'entrera en vigueur que lorsqu'un armistice franco-italien sera signé. Et j'entends un « Oh !» de désolation, de dépit. Je veux dire que j'ai éprouvé pour la première fois de ma vie la honte devant les autres. Et le 20 juillet, on demandait l'état numérique des officiers de race ou de religion juive. Je suis allé trouver le colonel français qui était le plus ancien et représentait les Français auprès de l'autorité allemande pour lui expliquer ce qu'il en était à mes yeux. Je me demandais s'il se rendait compte que l'état numérique serait 8 jours après transformé en état nominatif. Et je lui ai demandé ce qu'il ferait dans ce cas, s'il transmettrait la liste des noms aux Allemands. Après m'avoir dit « mais je ne ferai jamais de distinction entre mes officiers », il a frappé sa poitrine et il m'a dit « mais naturellement, je transmettrai cette liste ». Et donc le départ des officiers qui s'étaient déclarés comme de race ou de religion juive est passé inaperçu. Personne, sauf moi, n'est allé leur tenir compagnie la veille de leur départ. Et j'ai été exempté du départ du fait que le gouvernement de Vichy, au même moment, a fait savoir que les aspirants ne devaient pas être considérés comme des officiers, mais assimilés à des sous-officiers, et donc ne bénéficiaient pas, si je puis dire, du départ en camp plus dur, enfin on ne savait pas vers quelle destination. J'ai été renvoyé dans un camp donc de simples soldats, dans la même région, Poméranie, Stalag 2B, où en arrivant, je rencontre un de mes camarades également aspirant, qui venait d'un autre camp, un ami d'enfance. Et je lui dis « Claude, je vais m'évader, tu viens avec moi ». Il me répond « Tu galèges, à Noël on sera à la maison ».
Il n'y a qu'à attendre.
Attendre quoi? De qui? D'où?
Je sais pas, mais...
Non, papa, crois-moi. C'est à nous de nous démerder tout seuls.
Si tu veux mon avis, moi c'est un coup idiot. Une belle occasion de te faire tirer dans les miches.
Oui, enfin, en tout cas, moi, il faut que je me tire. La vue des barbelés me déprime.
Mais moi, ce sont les gants du commandant.
Les gants de tricot vert.
Si je portais les gants de tricot vert pour relever les compteurs à gaz,
les ménagères se foutraient de moi.
Ah, ça y est, là, le grand air de l'employé du gaz. Moi, je commence à en avoir marre de votre duo. Là. Vous pouvez pas changer de disque, non?
Monsieur, je tenais à vous dire au revoir. Dans quelques minutes, je m'évade.
Bavard.
Dégagez!
Ne crains rien, caporal, j'ai un plan. Le meilleur de tous. Celui qui consiste à ne pas en avoir.
Il faudrait d'abord que tu puisses ouvrir la porte de la baraque.
Cela doit suffire.
Et les barbelés, comment tu les couperas, hein?
Cette pince n'est pas du dernier modèle, mais elle doit faire l'affaire.
Et les sentinelles, avec leurs loupiotes et leurs flingues.
Un simple malentendu. Compagnon de mon tour d'Allemagne. Adieu.
Dans cet extrait du Caporal épinglé, le film de Renoir inspiré de Jacques Perret, Claude Riche s'évade seul. De l'Oflag de Poméranie, ils sont partis à 4. Crémieux, un ingénieur, un étudiant juif de Grenoble et un curé breton. Rejoindre la France, un chemin de 1000 km étant impossible, ils se dirigent vers l'Est. Ils ne savent pas qu'ils vont se retrouver dans l'antichambre du goulag pour... des mois de cauchemar.
Nous nous sommes dirigés à petites étapes de train jusqu'à la frontière lituanienne, car la Lituanie était à 425 km du camp. Nous pensions qu'en Lituanie, il y avait encore un consul français, bien que les soviétiques aient occupé le pays. Et donc, notre dessein était d'arriver jusqu'à Kaunas, capitale de la Lituanie. Nous avons fait passer la journée du dimanche 5 à Königsberg, dans un froid glacial, dans une ville vide et minérale. Et nous avons passé la matinée dans un temple protestant, et l'après-midi dans un cinéma. Nous avons vu deux fois les mêmes films, et deux fois les actualités représentant le maréchal Pétain, je ne sais plus dans quelle ville, à Lyon je crois, avec une foule qui dressait le bras à l'hitlérienne pour le saluer. Et donc de là nous sommes partis à pied vers l'est, à la boussole, à travers une campagne glacée. Au matin nous sommes arrivés près d'un cimetière. On est entrés dans le cimetière et on a balayé la neige sur une tombe et les noms n'étaient plus en allemand. Donc nous sommes embrassés, on était libres. Et deux ou trois heures après, nous étions faits prisonniers, arrêtés par un traîneau conduit par un cheval et portant des soldats rouges qui nous ont braqués, comme on dit, et embarqués. Et embarqués, c'est-à-dire pris dans ce qui nous apparaît aujourd'hui comme l'avant-garde du goulag, dans un pays qui était en proie à la découlakisation ou à l'épuration de la bourgeoisie, où les prisons étaient pleines, et nous nous sommes trouvés accusés de passage illégal de la frontière. Et je ne sais pas si ce sont les bonnes relations entre Hitler et Staline de l'époque ou le fait qu'il y avait justement cette épuration violente en Lituanie. Nous n'avons pas été mis sous le contrôle de l'armée rouge, mais sous le contrôle du NKVD, ce qu'on appelle aujourd'hui le KGB. Nous avons été envoyés dans un camp qui s'appelait le camp de Kozielsk, à 150 km au sud de Moscou. Ce camp de Kozielsk a été quelque chose de tout à fait extraordinaire parce que nous nous gérions nous-mêmes et nous sommes devenus une petite communauté française dans l'univers soviétique. Mais en même temps, avec un esprit combatif à l'égard des Russes, un esprit de communauté tout à fait superbe, bien que divisé entre communistes et non-communistes. Et c'est uniquement grâce à l'attaque allemande contre l'Union soviétique que, deux mois et demi plus tard, nous avons pu être libérés. Libérés, non, car nous avons été emprisonnés dans des conditions qui sont devenues très très dures à la fin, dans un camp du nord de la Russie, jusqu'au 30 août 1941. Le 30 août 1941, nous avons été conduits en wagon plombé jusqu'au port d'Arkhangelsk, sur la mer Blanche. À Arkhangelsk, on nous a embarqués sur un cargo entouré de soldats rouges, fusils-mitrailleurs, en position sur le pont, comme si l'un de nous voulait encore s'évader. Nous sommes partis sur la mer Blanche, à la découverte, on se demandait où, pour où, en chantant la Marseillaise, et en chantant une chanson qu'un camarade et moi, Pierre-René Millet, qui a été Croix de la Libération par la suite, compagnon, et moi-même, nous avions composé pour combattre avec De Gaulle. Souviens-toi, souviens-toi qu'il faut se taper pas mal de tôle. En veux-tu, en voilà, de connasse à Mitchourine, au paradis de Staline, évadé dans la misère, toujours la mine altière, etc.
Avant de parvenir à Londres, le 9 septembre 1941, avec 185 camarades, les Russes de la France libre, Crémieux ne sait pas grand-chose de De Gaulle en réalité. Il est d'une vieille famille républicaine, se présente comme un libre penseur d'ascendance juive, il a été militant du Front populaire, et par-devers lui, il craint que De Gaulle ne soit qu'un officier de cavalerie, une de ses culottes de peau qu'il n'a pas de raison d'aimer. Le premier contact grandeur réelle avec le général a lieu le 15 novembre 1941, lors d'une de ces grandes rencontres semestrielles que la France libre a instituées à Londres.
Mes chers amis, nous sommes en ce moment dans l'Albert Hall. L'Albert Hall, qui peut tenir 7000 places, est absolument plein de Français de Londres qui sont venus pour entendre un discours du général de Gaulle. L'Albert Hall est entièrement décoré de drapeaux bleu, blanc, rouge. Dans les loges, il y a des officiers, il y a des soldats en permission, il y a toute la colonie française de Londres. Le général de Gaulle, dont la haute taille se dresse au-dessus de toute l'assistance sur la plateforme, est entouré des membres du Conseil national, où brillent les uniformes du général Vallin, du général Le Gentilhomme et de l'amiral Muselier. Vous entendez en ce moment la musique de la garde galloise, qui depuis quelques minutes ne joue que des airs français. La musique de la garde est installée sur l'estrade derrière le général et sa suite. Et à côté de la musique de la garde galloise, il y a la fanfare des forces françaises libres, vêtue du béret des chasseurs alpins, avec les corps de chasse, les clairons, les tambours, tous en gants blancs. Au-dessus de l'estrade, une immense bande de toile porte inscrite la formule que vous connaissez si bien. Aujourd'hui, 510e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. On voit parmi la foule les infirmières. Elles ont un uniforme bleu marine avec un petit calot bleu marine et des gants blancs. Le service d'ordre est fait par des scouts français. Partout, le drapeau tricolore couvre les murs, descend des loges, couvre l'estrade. Le général de Gaulle se lève. Il est en uniforme kaki, sans décoration. Toute la salle se lève pour l'applaudir. À parler.
Je ne reconnais pas la voix du speaker, mais l'évocation qu'il fait m'est familière en effet, car elle est inoubliable pour moi. J'étais donc arrivé à Londres 2 mois auparavant, et je n'avais jamais en captivité eu que de très loin entendu parler du général de Gaulle. Je l'avais vu une fois au cours d'une prise d'armes au camp de Camberley, au cours de laquelle il nous avait remis une décoration. Mais c'était la première fois que je le voyais dans l'exercice solennel de sa fonction, qui était celle de chef de la France libre, et depuis peu président du comité national français qu'il avait créé en septembre précédent. Et donc l'impression, d'abord ce déploiement français dans la ville de Londres était extraordinairement impressionnant, et d'autre part, l'apparition du général, la tonalité, le style du personnage étaient ceux qui n'étaient pas ceux d'un général tel que les autres. Il y avait chez de Gaulle, dès le premier abord, un aspect souverain et d'autre part le sentiment d'une mission qui ne pouvait pas ne pas impressionner tous ceux qui étaient là.
Que veut la France ? Mesdames, messieurs, à cette question, beaucoup se hâtent de répondre qui ne lui sont de rien. C'est ainsi que je constate que le même jour, à la même heure, on dit dans le monde que les Français libres se proposent, inclinent vers le fascisme, ou se proposent de restaurer la monarchie constitutionnelle, ou bien visent à rétablir intégralement la République parlementaire ou veulent rendre le pouvoir aux hommes politiques d'avant-guerre et spécialement à ceux qui sont d'origine juive ou d'obédience maçonnique ou enfin qu'ils poussent au triomphe des doctrines communistes. Je ne pense pas que quoi que nous disions et quoi que nous fassions, nous mettions un terme à de telles allégations venant de telles sources. Mais il me semble qu'il est maintenant nécessaire que nous affirmions devant nous-mêmes et devant les autres quelle est notre politique.
Il s'est réclamé de la double devise liberté, égalité, fraternité et honneur et patrie, ce qui, je ne le savais pas du tout, était tout à fait nouveau, car la devise liberté, égalité, fraternité avait été mise sous le boisseau jusque-là, le mouvement ayant été un mouvement exclusivement militaire et patriotique, refusant d'être à aucun prix et d'aucune façon un mouvement politique.
Crémieux a la chance d'entrer dans la France libre au moment où, de militaire, elle devient davantage politique et de plus en plus ouvertement démocratique. C'est l'heure où elle reçoit de nouveaux visiteurs qui s'appellent Jean Moulin, Pierre Brossolette. Crémieux travaille au commissariat de l'intérieur, dans un hôtel prêté par le duc de Portland. Chargé, entre autres, de l'écoute de Radio Paris et de Radio Vichy, il se tient aussi au contact de l'équipe des Français parlent aux Français. Et c'est une tâche malaisée. On s'en souvient peu, mais les Français de la BBC dépendent de la BBC. Ils se méfient du culte de la personnalité qui entoure le général de Gaulle, lequel ne dispose que de quelques minutes d'antenne quotidienne confiées à Maurice Schumann. Il est même arrivé que celui-ci se retire du micro pour marquer tel mécontentement du général. Les équilibres ne sont pas faciles à établir à la BBC entre le grave et le plaisant et entre les différents choix politiques.
Ils font de Londres un balier donné.
Ils font de Londres un balier donné.
Hitler demande à Göring d'y aller.
Hitler demande à Göring d'y aller.
Le pape Calais est dur à traverser.
Le pape Calais est dur à traverser.
C'est difficile à Londres d'arriver.
C'est difficile à Londres d'arriver.
Les Français avaient trouvé la radio nationale française ennuyeuse. Les Anglais trouvaient que la BBC aussi était ennuyeuse avec ses conférences. De sorte que Jacques Duchesne a voulu s'inspirer des programmes des radios privées pour faire une espèce de théâtre, de revue, faisant alterner les dialogues, les sketchs, les slogans, les chansons, avec les commentaires des événements.
À quoi penses-tu ?
À Paris.
Paris.
Dis donc, tu te rappelles des marchands de frites ?
Oh bah je crois bien, malheureusement, maintenant, il n'y a plus de frites.
Non, mais il y a des frites.
Et là où il y a des frites ?
Bah attends, je vais te le chanter. Sur un rythme sans cesse accéléré, l'addition commence à se régler. Et pour solder la facture complète, on s'apprête. Chaque jour, des collaborateurs sont expédiés dans un monde meilleur. On ne dit plus Gestapo, mais plutôt l'Estapo, pour mettre de l'ordre dans l'ordre nouveau.
Où ça ?
Mais là où il y a des frics.
La radio de Londres a donné l'espoir. Elle a maintenu le lien, elle a contribué à créer ce terreau. Mais en plus, il y a une certaine doctrine politique. L'analyse d'une situation, du refus du fascisme, du refus de Vichy, du refus de l'armistice, et l'analyse des raisons qui feraient qu'on gagnerait la guerre, que les alliés gagneraient la guerre. Et cette cohérence dans l'explication confortait ce que la radio de Londres apportait de sentimental, d'impressionniste, de musical, etc. Bon. Il y a deuxièmement le fait que la radio de Londres a été traitée comme une arme. Absolument. Les Anglais l'ont voulu, l'ont comprise du premier jour comme une arme. Et Churchill a créé assez rapidement une direction de la guerre politique dont l'instrument privilégié était la radio. Et ça a été traité comme tel, n'est-ce pas ? Alors, dans une stratégie politique complétant la stratégie militaire, oui, là, il y a eu des divergences et des discussions extrêmement graves quant à l'orientation de cette stratégie. Qu'est-ce qu'il fallait dire aux Français ? Quels ordres leur donner ? Qui devait donner ces ordres ? Le maniement de cette arme radiophonique était d'une gravité politique extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce qu'il fallait dire aux Français « n'allez pas en Allemagne » ? Eh bien, ça a été l'objet d'un enjeu, d'une bagarre entre Français et Anglais. Et chaque décision nouvelle dans l'action a été l'objet de discussions entre Français d'une part, entre Français et Anglais de l'autre.
Tu as vu ? Deux ouvriers étrangers ont été condamnés à mort à Hambourg.
Ah non ? Qu'est-ce qu'ils avaient fait ?
Ils avaient tout simplement refusé d'être envoyés avec un détachement de défense passive pendant un gros raid de la RAF.
Ils avaient raison. La défense passive, c'est l'affaire de la défense passive. Moi, j'aimerais pas aller me mettre sous les bombes si j'allais travailler en Allemagne.
On ne te demandera pas ton avis.
Ne va pas en Allemagne. 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 Ne va pas en Allemagne, ne va pas en Allemagne, ne va pas en Allemagne.
Dans la dernière partie de la guerre, aux côtés de son patron Georges Boris, Crémieux participe au pilotage stratégique de la résistance intérieure, recevant les informations de celle-ci sur la France, lui en envoyant d'autres. Au printemps 44, c'était chaque mois de très nombreuses notes, chacune de plusieurs dizaines de pages, qui partaient du commissariat de l'intérieur de Londres.
Ai-je jamais été en désaccord avec les consignes données ? Je ne crois pas, je ne crois pas. Le but était tellement clair que nous allions tous, en prenant, s'il y avait lieu, nos responsabilités à notre petit échelon, vers ce même but, certains de tendre vers ce même but défini par De Gaulle qui régulièrement indiquait le Nord. C'était notre boussole toujours. Et donc dans cette phase terminale, oui, je me souviens de responsabilités que j'ai eues et dont je peux parler. D'une part, en février 1944, j'ai fait faire une enquête sur ce que l'on savait de la répression et des persécutions ou de l'extermination des Juifs en Europe occupée. Et j'ai fait rédiger et envoyer à 27 destinataires en France une note très explicite sur l'extermination des Juifs en Europe occupée, indiquant pays par pays les mesures prises et précisant que, selon les sources que nous considérions comme sûres, 3 millions de Juifs avaient été exterminés. Les sources étaient les Polonais, les Russes et des organisations juives. Et je dois dire que ce texte n'a été mentionné dans aucun journal clandestin, mais telle était la préoccupation de l'époque. Il est clair que ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, le problème juif n'était pas central. Ce qui était central, c'était bien le combat, c'était préparer la libération, préparer l'insurrection nationale. Et tous les efforts, tout ce à quoi nous avons convergé, c'était l'insurrection nationale. Et c'était en prévision de l'insurrection nationale que j'ai été chargé de rédiger les directives pour le débarquement, pour l'opinion française.
La bataille suprême est engagée. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France.
Dans l'une de ses vies d'après 44, Crémieux conseillera fidèlement Mendès France, ce qui le mettra dans une situation inconfortable. Le 13 mai 1958, tiraillé entre deux fidélités, le général de Gaulle revenant au pouvoir et son symétrique Mendès s'en éloignant définitivement. S'il avait eu une dernière vie, il disait qu'il l'aurait consacrée à l'engagement politique. Crémieux aimait bien l'image de la bisectrice. Il pensait à sa mort en 2015 que nous étions aujourd'hui dans une époque bisectrice. C'est pour cela, ajoutait-il, qu'il fallait entrer en politique, mais du côté de ceux qui espéraient en le perfectionnement de l'homme, pas du côté de ceux qui donnent de l'avoine au monstre qui est toujours en lui. Les ouvrages de Jean-Louis Crémieux-Briac sont publiés chez Gallimard, à commencer par le dernier d'entre eux, L'étrange victoire. Cette émission a été réalisée par Jacques Sigal, la préparation Timothée Fourré et Frédéric Martin, les archives Aurélie Luneau, Avoinu France Culture et la technique Alexandre Chenet.
Et un grand merci à vous. Jean Lebrun, on vous retrouve dès lundi avec une émission qui sera consacrée à celui qui disait « Quand j'entends le mot culture, je sors mon transistor ». Il s'agit bien évidemment du comédien-réalisateur Jean-Yann. À suivre, après les informations, Mathieu Vidard et le club des Têtes au Carré.